Donc on peut passer au suivi pluriannuel des investissements avec la création et l'actualisation 2025 des autorisations de programme et des crédits de paiement. Monsieur Scheuer, je vous en prie.
Merci Monsieur le maire. Pour rappel, le Code général des collectivités territoriales prévoit pour la section d'investissement du budget que la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement qu'on appelle APCP. Elles sont votées par le conseil municipal par délibération distincte, soit lors de l'adoption du budget, ce qui est le cas ce soir, soit par des décisions budgétaires modificatives. La délibération qui vous est soumise vous propose d'approuver d'une part l'actualisation de 4 APCP et d'autre part d'approuver 4 nouvelles. Tout d'abord, l'actualisation des APCP. Elle concerne l'école élémentaire Adélaïde Oval pour un ajustement des crédits de paiement permettant la clôture comptable de l'opération. La deuxième concerne le hall des sports. Cette opération a connu un début d'exécution avant la création d'une APCP. Ce sont 208 000 euros qui ont été enregistrés dans les comptes. Le montant global de l'opération s'élève à 16,1 millions d'euros. La troisième autorisation concerne la maison de l'enfance, de la jeunesse et des associations, qu'on appelle MEJA, pour 50 000 euros à inscrire dans le budget 2025, ce qui va permettre le lancement des études et le lancement des concours. Vous retrouverez en annexe de la délibération une fiche technique. Enfin, la quatrième autorisation est relative au terrain du CRIG. Ce sont 24 000 euros qui ont été enregistrés dans les comptes en 2023 et le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 1,4 million. Ensuite, il s'agit de la création de 4 autorisations de paiement. La première création concerne la mise en place de la vidéoprotection. 295 000 euros ont déjà été enregistrés dans les comptes. 500 000 euros sont à inscrire dans le budget de cette année, pour un global d'1,4 million. La deuxième création concerne la requalification du secteur de la Schlossmatt et la reconquête des berges de l'île pour un montant total de 5,5 millions, dont 48 000 qui sont inscrits dans le budget 2025. Vous retrouverez là également une fiche technique annexée à la délibération. La troisième création concerne la rénovation et l'extension de la FAIG. 50 000 euros sont inscrits dans le budget de cette année pour un montant total de 10,9 millions. Là encore, une fiche technique a été adossée à la délibération. Enfin, la quatrième concerne la sécurité informatique pour un montant de 220 000 euros à inscrire au budget 2025 pour un montant total de 680 000 euros. Il est proposé au conseil municipal de décider la création de nouvelles autorisations de programme et d'actualiser les existantes telles que je vous les ai présentées. Je vous remercie.
De parole. Qu'est-ce que c'est ? Oui, monsieur Barman.
Monsieur le maire, après, par cette délibération, vous nous présentez les grandes lignes de l'investissement que vous entendez réaliser dans les années à venir. Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais vous ne nous empêcherez pas de trouver une étrange coïncidence entre votre soudaine effervescence en matière d'investissement et l'approche d'une échéance électorale où vous briguerez probablement un second mandat. Hormis les deux projets de vidéoprotection et de sécurité des infrastructures informatiques, les nouveaux projets que vous nous présentez ne comportent d'ailleurs qu'un très faible montant pour l'année 2025. Il en est d'ailleurs de même pour l'actualisation de la maison de l'enfance et de la jeunesse et des associations. Nous ne nous prononcerons pas sur la pertinence des moyens mobilisés pour la sécurisation du système d'information de notre commune, mais nous mesurons parfaitement la nécessité de renforcer nos défenses pour faire face aux menaces grandissantes en la matière. Les collectivités sont particulièrement exposées et nous vous invitons à poursuivre les exercices de sensibilisation des utilisateurs pour accompagner ces investissements, les failles, les systèmes sont le plus souvent le fait d'erreurs des utilisateurs. En revanche, concernant la vidéoprotection, nous ne reviendrons pas sur notre divergence de philosophie sur le traitement de la question de la sécurité sur notre commune. Je dirais que contrairement à le problème de montée grandissante de la menace informatique, nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation à Elkirch. Depuis votre élection, Elkirch-Grafenstaden est apparemment devenue une ville dans laquelle un fort taux d'insécurité règne. Je dis apparemment, puisque vous ne nous fournissez aucun élément des actions menées par la police municipale sur le territoire, si ce n'est quelques anecdotes. Et voilà que vous nous proposez de remettre un ticket sur la sécurité, et un ticket de 1,4 million d'euros, excusez du peu. Pas d'explication sur les raisons d'un complément de 250 caméras par rapport aux 100 caméras que vous aviez initialement annoncées dans votre mandat. Sur un plan purement numéraire, je le reconnais, vous aurez coché une case à l'heure de dresser votre bilan. Pour ce qui est de la justification de la dépense, on repassera. Concernant l'aménagement du secteur Schlossmatt, nous relevons d'abord que le projet figurait dans le programme de notre équipe pour ce mandat. Nous devrions donc être flattés que vous ayez fini par réaliser l'opportunité de ce projet. Il ne s'agit pas du même projet que celui que nous avions imaginé, mais nous ne comprenons pas, mais nous ne pinaillerons pas sur ce sujet-là. En revanche, nous ne comprenons pas où se loge encore la concertation que vous entendez ouvrir lorsque on prend connaissance de votre autorisation de programme qui est tout de même très détaillée. Merci de votre écoute.
Merci. J'avais le micro qui était mal emboîté. Madame Gendreau.
Oui, monsieur le maire, comme l'année dernière, vous nous proposez une délibération unique pour tous ces différents sujets. Donc, moi, j'aurais aimé, souhaité qu'au moins pour les nouvelles autorisations de programme, on puisse se prononcer une par une et non pas en bloc pour tout, contre tout, où on s'abstient sur tout. Et donc, je vais détailler ma position sur les différents projets. Et puis après, au niveau du vote, on verra comment vous souhaitez le proposer au vote. Donc, cette année, ce sont 4 créations, autorisations de programme et 4 actualisations qui sont proposées. La première concerne la mise en place de la vidéoprotection. Bon, sur le principe, je n'y suis pas défavorable, sauf que nous ne disposons d'aucune information sur les lieux concernés par ces nouvelles implantations, sur les raisons qui vous motivent à en installer autant. Voilà. On constate qu'il s'agit d'un budget très conséquent, mais on n'a aucune visibilité sur le pourquoi, le comment et où. Dans ces conditions et faute d'information, je m'abstiendrai donc sur le sujet. Je traiterai tout de suite la 4e autorisation, sécurité et infrastructure informatique, qui va de soi et est incontournable. Je suis bien sûr favorable. Les deux autres sont liées tant par le contexte que par leur imbrication. Elles concernent la requalification du secteur de la Schlossmatt et la rénovation et extension de la FAIG. Elles ont un point commun. Pour que ces deux projets puissent se réaliser, il faut d'abord acquérir le terrain qui jouxte celui de la FAIG. Dans la fiche projet, vous précisez le montant de l'achat du foncier, 1 400 000 euros. Cela fait 5 ans que vous nous annoncez que cela va se faire. Désormais, vous nous dites que ce sera fait en 2026. Pourquoi pas en 2025, cette acquisition du foncier ? Avez-vous des engagements fermes et écrits à ce sujet que vous ne nous auriez pas communiqués ? J'en doute. Le contexte de ces deux autorisations de programme, qui en fait ne prévoit quasi rien en 2025, s'inscrit à l'évidence dans votre campagne municipale de 2026, personne n'est dupe. Que de temps perdu. À la fin de ce mandat, rien n'aura avancé sur aucun de ces deux projets. Dans l'état actuel des choses, je m'abstiendrai donc sur votre proposition. Venons-en aux actualisations. Pour ce qui concerne celles concernant le terrain du Krieg, je suis évidemment tout à fait favorable, en notant au passage qu'il y a 3 ans, vous nous disiez qu'il y avait urgence, qui semble finalement être devenue toute relative. Celle de l'école Adélaïde Oval n'appelle pas de commentaires de ma part. Je suis bien évidemment favorable également à la mise à jour de l'autorisation de programme de la construction Hall des Sports. Rappelons quand même que selon deux délibérations votées précédemment, vous attendiez 5 500 000 euros de subventions de la CEA et du Conseil régional. Dans les différents documents budgétaires de cette année, vous n'annoncez plus que 2 400 000 euros de subventions. L'an passé, dans ce même débat et dans la note de présentation des orientations budgétaires, vous annonciez également avoir sollicité une subvention de l'État de 3 900 000 euros dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local pour ce hall des sports. Celle-ci n'est plus évoquée non plus. Donc, sur un total de 9 400 000 euros de subventions sollicitées ou attendues, ce sont donc 7 millions d'euros de subventions qui auraient disparu. Le coût de cette opération s'alourdit considérablement pour le contribuable kirchois. Enfin, reste l'actualisation de la fameuse maison de la jeunesse et des associations, devenue aujourd'hui maison de l'enfance, de la jeunesse et des associations. Au-delà des changements de nom successifs, rappelons que le 7 avril 2022, vous faisiez voter en urgence une autorisation de programme sans contenu pour 5 400 000 euros, puis le projet fut mis à l'arrêt. Il est réapparu dans le PPI pour 2027. Entre-temps, son coût a changé, puisque les 5 années écoulées vous ont permis de prendre conscience que vous avez oublié le sujet de l'enfance. Il s'affiche désormais à 12 millions d'euros, dont 3 millions de subventions attendues, et que nous espérons qu'elles seront plus réelles que celles concernant le hall des sports. De toute façon, à ce jour, ce projet reste une intention. Aucun document sérieux n'a été communiqué sur son contenu, même si je vois que vous avez enfin daigné annexer à minima une fiche projet cette année, qui contient 4 lignes descriptives, mais oublie par contre totalement la partie association contenue dans le nom du projet. À part l'acquisition du terrain en 2023, rien n'a avancé depuis 5 ans, et en 2025, seuls 50 000 euros sont prévus pour des études. Encore un dossier qui s'inscrit donc dans le cadre de votre campagne de communication pour les prochaines élections municipales, après 5 années d'immobilisme sur ce sujet-là encore. Je m'abstiendrai donc aussi sur ce sujet. Je vous remercie.
Merci, Madame Gendreau. Alors, c'est vrai que, pour le coup, si on a fait l'autorisation de programme pour la Méja à l'époque, c'était parce qu'on a racheté le terrain. Alors, vous me reprochez sur un des sujets de ne pas avoir acheté le terrain. Là, on a acheté le terrain, pour le coup. Donc, on a acheté le terrain. Donc, c'était une première étape. On a mis en place une pépinière et un lieu où il y aura un marché hebdomadaire qui sera proposé aux habitants en attendant de pouvoir réaliser le bâtiment. Donc je pense que c'est quand même un plus pour les habitants du secteur et pour les habitants d'Ilkirch-Grafenstaden de pouvoir se retrouver dans un lieu de vie. D'ailleurs, pour avoir été faire des plantations avec les enfants du secteur Liberman, notamment du centre socioculturel et de l'école, c'était quelque chose de très apprécié par les habitants qui sont passés et qui se sont arrêtés en nous disant bah, c'est quelque chose de très sympathique, et étant entendu que de toute façon c'est amené à être pérenne, puisque derrière la Méja il y aura la place centrale du futur quartier Liberman. Et donc la maison de l'enfance, de la jeunesse et des associations était bien programmée dans cette temporalité. On a travaillé avec un certain nombre d'acteurs du secteur, on a travaillé aussi avec nos propres services, notamment la DEV, qui nous a fait part d'un certain nombre de ces besoins. Et donc, il y avait 2 options qui étaient sur la table, et d'ailleurs qu'on avait évoquées, puisque je pense que si on veut être honnête, il faut mettre tout sur la table. On avait évoqué le fait qu'on fasse la MJA, Maison de la Jeunesse et des Associations d'un côté, et une maison plutôt maison de l'enfance intergénérationnelle de l'autre côté. À un moment, ce qui s'est dessiné par rapport aux mètres carrés nécessaires, qui sont d'ailleurs tout à fait détaillés dans la feuille que vous avez reçue, où on a un certain nombre de surfaces de plancher, si vous prenez 2000 mètres carrés, 300 mètres carrés, 700 mètres carrés, 50 mètres carrés, c'est pas des surfaces qui sont tout à fait prises au hasard, puisque c'était des dimensions qui ont été prises avec nos propres services par rapport à des besoins. Et il est apparu que 3050 mètres carrés entrés dans un seul bâtiment, avec peut-être une adaptation en rez-de-chaussée du bâtiment qui aurait une excroissance sur la place pour pouvoir disposer d'une salle polyvalente transparente qui pouvait être tout à fait intéressante et répondre à la salle qui avait été faite aussi polyvalente dans l'école Adélaïde Oval. Et donc, voilà pourquoi, à un moment, au lieu d'avoir peut-être 2 bâtiments, tout a été rassemblé en un seul bâtiment, sachant que 2 bâtiments, on était autour de 6 à 7 millions d'euros, et que là, on revient sur un bâtiment à 12 millions d'euros. Donc, finalement, c'est aussi une forme d'optimisation, tout en gardant un certain nombre de choses essentielles. Le centre socioculturel, 2000 mètres carrés, on est sur la surface qui est aujourd'hui la surface consacrée au centre socioculturel Le Phare de Lille. Donc on garde les mêmes surfaces, mais on les optimise pour pouvoir avoir des espaces qui sont plus adaptés, et notamment plus d'espaces de plein pied, ce qui est quand même, je pense, une bonne chose, puisqu'aujourd'hui, la difficulté au Phare de Lille, c'est aussi d'avoir cet escalier central qui, qui est peut-être un peu moins pratique en matière d'accessibilité, et l'ascenseur qui est un petit peu excentré, donc c'est intéressant peut-être d'avoir les surfaces en plein pied. Le lieu d'accueil parents-enfants, donc le LAP et la crèche familiale, qui 300 mètres carrés, qui sont aujourd'hui dans la maisonnelle et qui est un bâtiment qui n'est plus tout à fait aux normes, qui nécessite notamment une rénovation thermique assez lourde et qui a plus d'intérêt d'être remise dans un bâtiment complètement neuf. Le multi-accueil, 700 mètres carrés, qui est aussi un service nécessaire. Et une maison France Service, 50 mètres carrés, qui faisait partie des engagements aussi qu'on avait pris à l'époque, de travailler avec l'État, avec la préfecture, pour pouvoir proposer au niveau du secteur Liberman un certain nombre de services publics à l'habitant, et notamment pour pouvoir y faire des démarches, que ce soit des papiers d'identité, mais aussi un certain nombre de démarches auprès de la CAF, auprès de l'assurance maladie et autres, et donc qui est assez attendu. Et donc, en l'occurrence, on est dans cette projection de ce bâtiment qui doit se faire au niveau du secteur Liberman. Cette année, ce qui est bien marqué, il y a toute la partie autour des études avec le programmiste et le lancement du concours. C'est ce qui sera fait cette année. Tout comme la projection de la Schlossmatt et de la Feig. Certes, la Schlossmatt et la Feig, c'est des choses qui prennent du temps parce que, en fait, on avait deux options. Soit on faisait un projet à minima tel qu'on avait pu voir dans certains documents qui préexistaient, où on avait vu, moi quand j'ai pris mes responsabilités, on a vu des schémas où on mettait juste des demi-terrains et on se disait qu'on avait fait tout le projet de la FAIG avec tribune vestiaire, mais tribune vestiaire qui en fait n'était utile qu'à un terrain d'honneur et pas forcément optimisé autant que le rugby. Et c'est présenté quand même l'opportunité, je pense, qu'il fallait saisir. Du fait que vous savez que Alcatel a déménagé, vous savez qu'il y a eu une évolution aussi avec les occupants, notamment Clestra. Et donc, nous, on a pris attache avec le propriétaire. On ne peut pas dire que ça a été facile au départ avec le propriétaire à l'époque. Vous avez suivi quand même les débats. Il y a eu un certain nombre de sujets. Il y a eu un périmètre de prise en considération. J'ai pris mon bâton de pèlerin, si je puis dire, pour aller rencontrer le propriétaire. J'étais d'ailleurs en région parisienne rencontrer le propriétaire. On s'est mis autour de la table et à un moment, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on travaille ensemble et qu'on aboutisse ensemble à un projet, qu'on soit finalement dans une opposition de principe avec des procédures judiciaires qui, lui comme nous en tant que ville, ne ferait gagner personne, ferait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, de frais de procédure. Et c'est là où on est tombé d'accord avec le propriétaire du site Alcatel, enfin ex-Alcatel, pour pouvoir dire une partie du foncier va évoluer en termes économiques et donc de trouver un certain nombre de porteurs de projets. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on a un certain nombre de porteurs de projets qui s'installeront demain sur le site, l'ancien site Alcatel, et donc qui feront finalement, si je pourrais dire, une reconfiguration complète du site, puisque le bâtiment historique d'Alcatel n'est plus du tout d'actualité, étant entendu que c'est une passoire thermique et que les volumes ne sont pas du tout adaptés, et que la ville pouvait reprendre au prix du foncier. Donc on a évalué à peu près 1,3 million, 1,4 million avec l'évaluation des domaines qu'on a demandé sur le foncier, pouvait racheter ce foncier au prix des domaines, et donc ça permettait à un propriétaire foncier de pouvoir faire évoluer son site et de garder la dimension économique sans logement, puisque ça c'était un des éléments un peu importants dès le départ, et je pense que c'était peut-être pas le point d'accord au tout départ, et c'est pour ça qu'il y avait eu le périmètre de prise en considération, et ensuite on est tombé d'accord sur ce sujet-là. Et donc on est tombé d'accord sur le fait que c'était un site qui devait rester un site économique et que d'un autre côté ça devait être un site qui accueille un certain nombre de services publics. Et donc l'intérêt sur ce projet, c'est qu'au lieu d'avoir une FAIG renfermée sur elle-même sur un foncier qui est contraint aujourd'hui, puisqu'on le connaît tous, on y passe régulièrement, on a la possibilité d'avoir un foncier qui s'étend et donc d'avoir trois terrains complets, dont le terrain qui avait été fait à l'époque, le terrain en synthétique qui avait été fait à l'époque, la tribune vestiaire à peu près dans les mêmes proportions de ce qu'on connaît au Krieg, au rugby, et un nouveau terrain d'honneur, tout en gardant le terrain d'honneur qui est existant et qui pourra servir de terrain d'entraînement, et peut-être qu'un jour, une fois qu'il sera peut-être un peu trop abîmé, pourra aussi être passé en terrain synthétique si le besoin s'en fait sentir. Et donc l'intérêt, c'est que la tribune vestiaire qui a été faite, la tribune qui est végétalisée qui a été faite cette année, permettra de toute façon de continuer à avoir un accueil du public sur ce terrain-là Et en même temps, les deux autres terrains seront équipés du tribune vestiaire qui permettra d'avoir finalement une vue sur les deux terrains. Mais pour ne pas attendre la réalisation de l'équipement un peu plus important, l'intérêt, c'est de réaliser dès l'année prochaine deux demi-terrains qui étaient prévus et qui avaient été dessinés pour pouvoir justement accueillir les activités de la FAIG en attendant de pouvoir disposer de toute l'infrastructure terminée et donc de déménager la Schlossmatt sur le secteur Schweitzer. Et donc l'intérêt aussi d'avoir deux demi-terrains, c'est que demain, il y a un des deux demi-terrains, une fois que la FAIG aura son terrain entier, qui pourra être redonné au rugby et avoir suffisamment d'équipement pour le rugby. Et c'est bien ça la problématique aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que le rugby s'entraîne encore à l'arrière de la construction du hall des sports parce que le terrain d'honneur a un vrai problème et il y avait vraiment urgence à agir. Et donc, il y a eu des études qui ont été lancées depuis un certain temps et qui vont permettre d'aboutir à une réfection totale du terrain d'honneur cet été. Et il y a urgence à agir puisqu'en fait, 80% du temps, globalement, le terrain en herbe du rugby et au repos pour pouvoir accueillir les compétitions. Et donc, on est obligé d'accueillir sur d'autres terrains, et notamment sur la partie à l'arrière de l'actuel chantier du hall des sports, les jeunes du rugby pour pouvoir s'entraîner. Et donc, l'intérêt de faire ce terrain complètement synthétique à l'arrière sur le terrain d'honneur, c'est d'avoir la possibilité de s'entraîner tout le temps et de ne plus être obligé d'avoir un terrain qui est au repos 80% du temps, mais qui peut fonctionner toute l'année, peu importe les conditions climatiques, et qui n'a plus besoin d'être au repos. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est un peu complexe et ça paraît un petit peu compliqué de vous expliquer l'ensemble des tenants et des aboutissants, mais il faut quand même les savoir puisqu'en fait ça s'appuie sur un certain nombre de contextes différents qui ont fait qu'on a dû peut-être revoir certaines décisions qu'on avait prises au début du mandat en se disant ben, peut-être qu'étendre la FAIG et d'avoir un peu plus de foncier, c'était quand même intéressant, étant entendu que ça permettait aussi de faire du parking en nombre suffisant, puisque une des problématiques du secteur Schweitzer, ça reste quand même le parking, et je pense que d'avoir suffisamment de parking, c'est quand même une chose positive. Et c'est pour ça qu'on a réussi avec le propriétaire actuellement à avoir ce parking pour les manifestations sportives avec une mise à disposition gratuite, hein, puisque la convention aujourd'hui d'occupation du parking est parfaitement gratuite pour la ville, puisqu'on a cette perspective d'acquérir demain le foncier auprès du propriétaire et que les choses avancent très bien, puisqu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été testés, que ce soit la puissance électrique ou d'autres éléments sur le foncier, pour que lui puisse accueillir un certain nombre de porteurs de projets. Et donc, c'est vrai que tout est lié, mais en tout cas, je vous invite à venir samedi pour l'atelier de travail sur le projet de la Schlossmatt, puisque je pense que ça sera un projet tout à fait intéressant et que les choses sont assez ouvertes. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un changement du plan de circulation dans le secteur de la Schlossmatt qui sera fait au mi-avril, qu'il y a cet atelier de travail qui est fait avec le cabinet parenthèse, donc les choses sont quand même avancées sur le sujet de la Schlossmatt, et qu'une des premières étapes qui doit être réalisée à la Schlossmatt une fois le terrain libéré, c'est la partie parc. Ensuite, il y aura la partie aire de jeu, il y aura la partie dojo, gymnase. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant de travailler avec les habitants, c'est qu'il y a plein d'options qui sont ouvertes. Où est-ce qu'on met l'aire de jeu? Comment on retravaille les quais? Comment on travaille les espaces, notamment pour les sportifs? Est-ce qu'on donne une dimension très importante en termes de sport santé au parc? Ça, c'est une des options qui peut être mise sur la table. Est-ce que sur le parc du Birkenhildel, qui est quai de l'Abreuvoir, on en fait peut-être quelque chose, soit où on valorise vraiment les arbres, puisqu'il y a quelques arbres remarquables, et donc on en fait vraiment un parc végétal sans aucun aménagement. Est-ce qu'on met des aménagements, notamment des aires de jeu, pour des plus petits à cet endroit? Enfin voilà, il y a beaucoup d'options qui sont sur la table, et c'est, je pense, ce qui est le plus intéressant. Donc voilà pourquoi on met aujourd'hui toutes ces autorisations de programme, puisque aujourd'hui ça fait suite à un certain nombre de projets. Après, je ne reviendrai pas sur la vidéoprotection, je pense que c'est une histoire philosophique. Pour le coup, j'ai l'occasion de l'entendre dans toutes les assemblées dans lesquelles j'ai l'occasion de siéger. Et de toute façon, ce schisme de la vidéoprotection, si je puis dire, existe un peu partout. Alors, il est de moins en moins vrai, puisqu'en fait, je me rends compte que même ceux qui étaient contre la vidéoprotection, une fois qu'ils deviennent responsables politiques, maires ou autres, deviennent pour la vidéoprotection. On le voit dans des grandes villes où on avait, par exemple, Lyon ou Bordeaux, on voyait que les maires étaient complètement contre la vidéoprotection. Et puis après, ils deviennent raisonnables et ils se rendent compte qu'il y a quand même des vrais problèmes et qu'à un moment, il faut régler les problèmes et qu'il faut prendre des mesures. Donc voilà, mais je pense que ça, voilà, c'est un schisme qui existe. Je pense que peut-être que dans 10, 20 ans, il n'existera plus, puisqu'en fait, on aura peut-être avancé sur le sujet de la vidéoprotection. Ce qui est certain, c'est que la vidéoprotection a un vrai apport en matière de résolution d'affaires et d'enquêtes. On a fait le choix de mettre la vidéoprotection dans un premier temps sur les parvis d'école. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire toutes les entrées et sorties de la ville, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, notamment dans la lutte contre les cambriolages, hein, qui nous permet de pouvoir retracer un certain nombre de parcours, le faire dans un certain nombre d'espaces aussi qui sont des espaces publics. Hein. On a un renforcement prévu au niveau du Forum de Lille, dans les jardins Liliade, puisqu'on accueille des grandes manifestations, au parc Friedel, où on accueille un certain nombre de personnes, le parvis ici de la salle des fêtes et les abords justement de Huron qui sont aussi un secteur concerné, les jardins familiaux qui font l'objet d'un certain nombre de dépôts sauvages. Donc voilà, ce qui est certain, c'est que la vidéoprotection a été visée dans des secteurs où on avait des problématiques qui sont identifiées. Le but, ce n'est pas de suréquiper la ville de vidéoprotection dans des secteurs où on n'a pas de problématiques spécifiques. L'intérêt, c'est de pouvoir le mettre à des endroits qui sont tout à fait identifiés. Et voilà pourquoi on développe la vidéoprotection. Et encore une fois, ça fait partie des demandes les plus importantes de mes concitoyens. Donc je vous propose de passer au vote. Alors, si vous voulez, comme je suis un maire sympathique et que j'ai compris que vous souhaitiez voter un par un, si vous voulez, on peut faire un par un. Comme ça, au moins, je vous laisse la liberté de décider sujet par sujet. Oui, monsieur Barman.
Oui, alors monsieur Vert, ce sont nos concitoyens et pas les vôtres. Ça, c'est un détail. Et je ne vois pas pourquoi, sur la seule expression d'une seule personne, on changerait la modalité de ce qui est écrit. Il est prévu qu'on vote en bloc. Il n'y a pas de raison qu'on vote autrement.
Bon, après, vous savez, je peux demander de voter un par un. C'est dans la police d'assemblée. C'était pour faire plaisir à Mme Gendreau, mais je vois que vous ne voulez pas. Bon, écoutez, alors, je vous propose de voter en bloc, puisque M. Barman y est opposé. Et si Mme Gendreau veut faire une explication de vote, je lui laisse volontiers faire une explication de vote pour nous donner ses votes.
Oui, merci. Donc, en résumé, pour l'explication de vote, pour les nouvelles autorisations, je vote pour l'autorisation concernant la sécurité informatique. Pour le reste, le CRIC, je vote pour. L'école ovale, je vote pour. Le hall des sports, je vote pour. Et pour les nouveaux projets qui nous sont proposés, actualisations, maison de l'enfance, Schloss Matz et vidéoprotection, je m'abstiens. Voilà.
Parfait. Et du coup, alors, je vous demande, est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération ? Des abstentions ? Je vous remercie.